Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Magnificat, l'émission du groupe Marie de Nazareth. Comme chaque dimanche, retrouvons-nous pour évoquer tout ce qui touche à l'actualité de l'Église par différents prismes, comme la sortie de livres, différents événements, l'histoire de dévotions ou encore de saints, connus ou inconnus. Cette semaine, nous parlerons en profondeur de Myrna Azour, cette mystique syrienne que notre invité connaît bien. Nous n'avions évoqué cette femme lors d'une précédente émission que quelques instants, mais il nous semblait important de vous la présenter davantage parce que ce qui se déroule depuis plus de 20 ans en Syrie mérite d'être connu. Je reçois donc de nouveau aujourd'hui Jean-Claude Antakli. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour France.
Je vous représente pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté notre émission du 1er juin. Vous êtes né à Alep. Ce n'est pas un détail pour le sujet que nous abordons aujourd'hui. Alep était protectorat français et vous arrivez à 20 ans en France pour devenir biologiste. Alors, vous êtes diplômé de biologie, ainsi que votre épouse. Et j'insiste beaucoup sur le fait que vous êtes aussi diplômé d'hématologie, d'immunologie, de virologie, ex-assistant d'hormonologie. Si je précise tout ça, c'est parce que votre regard de scientifique est très important pour nous. Phénomènes mystiques que nous allons évoquer ont été étudiés par vos soins, ainsi que votre épouse, hein, de façon scientifique, et vous allez nous en parler. Alors, nous parlons donc d'une femme qui a environ la soixantaine, que vous connaissez, donc vous en parlez en connaissance de cause, mais présentez-nous Myrna. Qui est Myrna Azour?
Oui, tout d'abord, merci France, merci Radio Courtoisie qui m'accueille pour la énième fois. Alors, évidemment, parler de Myrna Azour, on a évoqué ça lors de la dernière émission, comme vous l'avez souligné. Ça va être un exercice difficile, mais pas impossible, car vous vous en doutez, les événements ont commencé en 1982 et nous sommes plus de 40 ans après. Donc, je vais vous donner, si possible, l'essentiel de cet événement, en parlant bien sûr de Myrna, des événements surnaturels, de mon témoignage. Et puis, ce qu'on a omis de dire et qu'on oublie, c'est que Myrna, 10 ans après, elle a fait le tour du monde plus d'une fois, que ce soit en France, plus d'une fois, aux États-Unis, en Australie, au Canada, et j'en passe des pays, en Angleterre, en Grande-Bretagne, au Portugal, etc. Et ce sera important de citer un petit peu plus tard la chronologie de ces événements qui font que Myrna, qu'elle a reçu, ce n'était pas pour elle en tant que femme, en tant que jeune femme mariée, mais pour le monde entier. Et vous avez fait la dernière fois l'analogie et le questionnement pourquoi là où saint Paul a pu avoir sa conversion.
Oui.
Alors, pour revenir donc à l'essentiel, Myrna, jeune femme, je dirais pas simplette, mais simple, qui avait quand même un niveau du culturel différent des autres voyantes comme Nouhad Shami, comme Mariette, puisqu'elle avait atteint le bac. Alors, cette jeune femme, comment elle était décrite par son entourage pour que vos auditeurs comprennent, ce n'était pas une mystique vouée à la sainteté. Et comme elle dit, je ne connaissais que le Notre Père, et je vous salue à tout son entourage qui était étonné de voir en cette jeune femme qui était quelqu'un de naturel, spontané et très espiègle pour ses amis. Mais très, c'est l'ami que toutes les femmes ou toutes les filles auraient voulu avoir. C'est vous dire un peu son profil. Or, elle se marie jeune. Myrna Azour, il faut situer, elle est catholique.
Oui.
Vous avez dit, elle est syro-libanaise, je précise, parce que le papa et la maman sont syro-libanais. Mais ça, c'est un détail, mais qui a aussi son importance, car coïncidence du plan de Dieu qui me dépasse, Mariette est syro-libanaise. Pardon, Myrna, Mariette
oui.
est aussi. Nouhad Shami, pareil. Et Mariam Bawardi, devenue sainte de Jésus le crucifié, était des syro-libanaises. Si vous voulez, la Phénicie revient à travers l'Évangile et il y a une corrélation, saint Paul, Myrna, etc. Alors, elle se marie jeune, Sainte Marie-Nicolas Nazour est orthodoxe. Elle est de la famille Ahras, ce qui veut dire muet en arabe, mais comme ça, il y a des surnoms qui sont attribués au Levant de cette manière. Donc, 6 mois après son mariage, elle est en visite chez sa belle-sœur. Donc, je vais faire court, vous donner les éléments essentiels, parce que s'il fallait rentrer dans les détails, une émission à elle seule ne suffirait pas. Donc, premier fait divers, elle va chez sa belle-sœur avec des amis et elle est là en direct, elle est allongée, la belle-sœur, elle se tord dans des douleurs abdominales atroces. Mais on ne peut pas dire qu'elle avait une maladie grave, car il ne s'agit pas d'une guérison extraordinaire, mais d'une guérison spontanée. Et vous m'avez posé la question, comment se fait-il, l'huile, est-ce que... Bon, à ce moment-là, Myrna, pour la première fois, éprouve un étrange sentiment de frisson. Et spontanément, sa belle-sœur qui était allongée, elle pose ses deux mains sur son ventre.
Ah, c'est comme ça qu'elle a eu l'intuition, par un frisson.
Oui, elle n'a pas compris. D'ailleurs, quand on lui demande après, elle dit spontanément. Bon, elle a senti comme ça et spontanément, elle pose les mains comme... Et ça a été, la guérison a été instantanée par rapport à ses douleurs. Nous allons plus loin. Bon, évidemment, la belle-sœur est ravie. Elle ne cherche pas à comprendre. Elle, pour elle, elle est soulagée. En rentrant l'après-midi et le soir, son mari l'interroge, puisque c'était sa sœur. Elle lui dit, voilà, Nicolas, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai senti comme un écoulement de mes mains, huileux, etc. Et voilà, elle lui donne le fait divers. Et Nicolas, bon, je dirais, pas, c'était un chrétien, mais qui n'était pas pratiquant. Et puis, ça a posé un problème pour sa vie conjugale, ce qui allait se passer plus tard. Bref, il lui dit avec humour qu'il a dû manger beaucoup d'aubergines et c'est pour ça que tu as eu peut-être les mains huileuses. Voilà, c'est le fait divers, un peu, je dirais pas péjoratif, mais il reflète la mentalité des Orientaux quand ils veulent pas chercher plus loin et on comprend. N'importe quel marié avec une jeune femme aurait une réaction, je dirais, basique. Cela se passe donc vers la mi-novembre. Quelques jours plus tard, pour ne pas dire exactement le soir du 27 novembre, ils avaient ramené, ce couple modeste avait ramené une petite image de la Vierge à l'enfant de l'église Sainte-Sophie en Bulgarie. Vous voyez, ce n'est pas comme si c'était une icône, comme il en existe en Syrie, à Sednaïa, surtout celle qui est peinte par Saint-Luc, elle est pluricentenaire et elle fait des merveilles depuis 20 siècles. Bon, mais c'est un autre sujet, peut-être qu'on pourra traiter ça plus tard, parce que ça
volontiers
mérite de savoir pourquoi les écoulements d'huile parfumée ont un sens extraordinaire, aussi bien spirituel que biblique. Bref, le 27 novembre, donc, ils ont ramené une dizaine de ces images, qui ont été imprimés gratuitement à des centaines de milliers d'exemplaires par des musulmans. C'est vous dire la générosité des musulmans et la dévotion qu'ils ont pour la Sainte Vierge, qu'ils vénèrent. Bref, et elle met donc une de ces images dans sa chambre à coucher, les 9 autres, il les distribue à des amis. Et le matin, au moment où Nicolas s'apprête à partir au travail, elle aperçoit que cette image commence à couler pour la première fois abondamment d'huile. Nicolas, là, il est surpris. La première fois, d'accord, sa belle-sœur, sa sœur, qui est guérie spontanément, il lui dit, très prudemment, il est troublé. Hein, ça lui pose un problème. Il lui dit, écoute, tu n'en parles pas, tu ne bouges pas, je vais aller voir ma famille, etc. Je vais aller voir peut-être un prêtre, j'en sais rien. Alors, elle, Myrna, comme ça coulait abondamment, elle prend une cupule, elle reste assise avec son image. Elle lui dit, surtout, tu n'en parles pas. Parce qu'il a peur de la propagation et il ne sait pas. Ils sont tous les deux un peu sous le coup du choc. Or, à peine parti, évidemment, il y a une voisine, une deuxième, une troisième qui vient s'enquérir de Myrna. Et en moins d'une demi-journée, plusieurs centaines sont là déjà dans le patio. Et le pauvre Nicolas, quand il arrive, c'est trop tard. Ça, c'est le deuxième événement. Donc, premièrement, il y a eu cette spontanéité, cette guérison spontanée. Deuxièmement, cet écoulement. Très bien, on ne va pas aller dans les détails de ce qui se passe après, mais très rapidement, la nouvelle s'est répandue. Elle est arrivée aux oreilles du père Elias, qui est le père de Notre-Dame de Damas, l'église Notre-Dame, connu dans toute la Syrie et en particulier à Damas. C'est un écrivain proche des jeunes et des pauvres. Il a fondé une chorale extraordinaire, comme celle du chœur de l'Armée rouge, c'est vous dire, hein, sa réputation. Il a réussi avec cette chorale de 100 choristes en 1977, vous voyez. À la fin, ils étaient 400 choristes. Les âges de 7-8 ans jusqu'à l'âge de 80 ans. Et ils ont rayonné en France et dans le monde entier, y compris en Arabie Saoudite, qui était une performance, je vous le cite, parce que faire l'hymne de la Vierge dans un pays comme l'Arabie Saoudite, il fallait qu'ils aient la confiance, mais ça, oui. C'est arrivé. Et j'ai ouvert cette parenthèse. Donc, ce père spirituel, avec un autre, le père Mahlouli Lazaris, lui était très réticent. Pourquoi? Parce qu'il est du Prado, donc cartésien, croyant, mais on ne court pas après les miracles. Mais à la demande de ces jeunes choristes, qui lui dit « Père, il se passe quelque chose de chez Myrna ». Et Myrna, c'est une brave fille. Elle n'a pas pu improviser. Bon, finalement, il est venu et donc il est au courant. Nous sommes le 15 décembre, donc 3 semaines plus tard. Il y a un groupe dans ce patio de cette maison orientale du quartier Souffanier. Il y a sa famille, bien sûr, Nicolas, et il y a le père Elias. Il y a un couple de Jordaniens, il y a un médecin, elle est là, le soir, c'est 23h, 23h30. Nous sommes le 15 décembre. Et Myrna est adossée au mur dans ce patio, avec autour les amis, etc. Et elle sent, là je vous rapporte son témoignage avec 40 ans de décalage. Je l'ai quand même rencontré 20 ans, et comme je vous l'ai dit la dernière fois, je n'ai jamais couru après les miracles. Mais j'ai toujours témoigné dans mes reportages, dans Stella Maris ou Mille raisons de croire, ou Marie de Nazareth, étant biologiste qui reflète comme un miroir, mais qui ne cherche ni à convaincre ni à prouver.
Nous allons faire une petite pause parce que nous sommes presque à mi-émission pour écouter le Bob Himno.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Merci Jean-Claude pour cette petite pause bien nécessaire pour que les auditeurs puissent faire des dons à Radio Courtoisie. Alors, nous vous écoutons pour la suite.
Alors, je poursuis. Donc, elle sent comme quelqu'un qui la pousse de l'arrière. Elle ne comprend pas. Parce qu'elle se tourne spontanément alors qu'elle est chez elle. Elle se rend compte qu'il y a un mur, qu'il n'y a pas quelqu'un, un homme ou une femme qui la pousse. Et du coup, spontanément, elle va monter au premier étage où il y a à droite son beau-frère, qui dort à cette heure-ci, c'est 23h37 d'après le témoignage, et il y a une véranda avec une barrière métallique, et en face, vous avez un énorme eucalyptus. Quand je fais des conférences, je montre la vidéo pour que les gens matérialisent quelque chose. Il y a un énorme eucalyptus avec un terrain vague de foot, et elle voit de loin comme une boule lumineuse. Arriver, l'eucalyptus doit mesurer 40 mètres. Elle voit de loin arriver cette boule, elle est là, stupéfaite, elle ne comprend pas, et cette boule se cristallise et se métamorphose en une silhouette féminine qui traverse la véranda et la barrière métallique et se pose à peu près à 1 mètre. Myrna est surprise. Elle voit une femme éblouissante de beauté, mais elle a peur. Elle crie, elle s'en va. Et au moment où elle part, donc elle quitte la terrasse, la belle-sœur se réveille. Elle lui dit, Myrna, mais qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, écoute, je crois que j'ai vu la Vierge. Elle lui dit, mais tu es folle, tu dois rêver. Elle lui dit, comment je rêve? Je suis debout. Bref, elle descend et en bas, donc elle a son mari, le père Elias et d'autres personnes que je ne citerai pas. Et le père Elias, très perspicace, très intuitif, lui dit « Qu'est-ce que tu as, Myrna ?» Elle était blême de peur. Elle lui dit « Père, je crois avoir vu la Vierge. » Et le père Elias, très intuitif à l'époque, lui dit « Écoute, Myrna, si vraiment c'est la Vierge, et si c'est la Vierge, c'est une maman. Et si elle a quelque chose à nous dire, une maman ne fait pas peur. Et si elle a quelque chose à nous dire, elle reviendra. » Coïncidence du plan de Dieu, c'est vous dire, 3 jours plus tard, elle est dans le même patio, mais il y a plus de monde. Il y a cette fois-ci, il y a le père Maalouli, lazariste, qui est mort entre-temps. C'est un saint homme. Il est connu de toute la communauté musulmane et chrétienne de Damas comme quelqu'un de proche des pauvres et des jeunes. Bref, à ce moment-là, elle sent la même force qui la pousse. Elle monte, mais elle est beaucoup plus tranquille, plus sereine, parce que tout le monde la suit. Et à ce moment-là, effectivement, la Vierge arrive au même endroit. Elle se pose presque à 1 mètre au-dessus, elle lui sourit, et Myrna lui touche le pied, elle sourit, et elle tombe en extase, et elle délivre le premier message en arabe, que je ne vais pas répéter parce que ça nous prendrait une bonne part de l'émission, mais ça a été le premier message extraordinaire, prophétique. En gros, je vous l'avais cité la dernière fois, donc vos éditeurs peuvent se reporter, mais je citerai les 3 choses importantes où la Vierge dit « Mes enfants, souvenez-vous de Dieu, car Dieu est avec nous. Vous connaissez toutes choses et vous ne connaissez rien, mais viendra le jour où vous connaîtrez toutes choses, comme Dieu me connaît, car votre connaissance est une connaissance imparfaite. » Et puis elle ajoute, je visiterai davantage les foyers. Et c'est comme ça qu'on a compris, à travers cette petite image qui a été distribuée dans plusieurs pays du monde, elle a coulé dans beaucoup de pays. Ensuite, il y avait un vœu de construire une église. Et la Vierge dit, non, je ne demande pas à ce qu'on construise une église, mais un lieu de pèlerinage. Ensuite, elle termine par dire, je ne demande pas de l'argent à distribuer aux églises, ni de l'argent à distribuer aux pauvres, à Tloubul Mahabba. Je demande l'amour, car ceux qui distribuent leur argent aux églises et aux pauvres, sans qu'ils aient l'amour, cela ne sent rien. Etc., etc., priez, priez, et ne privez personne de mon secours. Donc, je vous ai un petit peu résumé pour que vos auditeurs comprennent que ce premier message a été quelque chose d'extraordinaire et qui a été le prélude. Alors, évidemment, après l'événement, il se poursuit jusqu'à ce jour.
Oui.
Alors, ensuite, il y a eu d'autres apparitions. Et en 84, comme je vous l'ai dit, et les catholiques sont mariés orthodoxes, en 84, première stigmatisation. En 87, coïncidence.
Alors, 84, parce que c'était l'année où Pâques était célébrée en même temps par les orthodoxes et les catholiques.
Vous faites bien de le préciser. En 87, j'y suis coïncidence, parce que je devais atterrir à Alep avec ma famille, mes 3 enfants qui étaient très jeunes, et nous sommes déviés sur Damas, parce que l'aéroport était fermé pour des raisons de travaux. Or, j'avais 1 an auparavant seul contacté Myrna et le père Elias. Donc, j'étais au courant, mais j'oublie de vous signaler, grâce à Jean-Claude Darigo, et ça intéresse non seulement vos éditeurs, mais tous les médias qu'ils connaissent, c'est un grand reporter de France 2, journaliste, et il enseignait le journalisme à Strasbourg, et lui, en 86, à l'occasion du 4e anniversaire, s'était rendu à Damas avec une équipe d'ingénieurs, de son, de caméramans, la plupart agnostiques ou athées, et croyez-moi, il a été bien servi parce que l'écoulement a eu lieu le jour de l'anniversaire. Et moi, je l'ai rencontré après, parce que c'est encore une fois, alors que je ne le connaissais pas, et c'est lui qui m'a préfacé mon premier livre, Itinéraire d'un chrétien d'Orient, et le silence de Dieu, et malheureusement, il est mort après le silence de Dieu, parce qu'il était persuadé que mon témoignage rejoignait ce que lui avait vu et touché comme saint Thomas.
Alors donc, stigmatisation.
Alors, stigmatisation, si vous voulez que je poursuive.
Oui, on n'a plus, le temps passe très très vite. Donc, il y a eu plusieurs stigmatisations et ça s'est arrêté.
87, 90, 2001 et 2004, la dernière.
Chaque fois, quand la fête de Pâques était célébrée conjointement entre orthodoxes
2004,
et catholiques.
2014, rien.
Oui.
Et de 2014 à 2024, rien.
Oui.
Sauf qu'entre-temps, il y a eu des écoulements d'huile, il y a eu des messages par intermittence, mais parce qu'il y a un des messages aussi où lui a dit, le Christ lui dit à Myrna, tu ne me reverras plus tant que l'Église ne sera pas unifiée. Vous comprenez, si on ne décode pas tous les messages, comme je l'ai fait, j'ai mis 10 ans avant de publier mon livre, vous savez, on ne peut pas comprendre la chronologie comme quoi c'est un plan de Dieu, et je vous réponds indirectement, s'il a choisi le chemin de Saint Paul, le Christ, avec un couple marié à Damas, ce n'est pas par hasard.
Bien sûr, oui.
Comme vous le voyez, c'est toujours à feu et à sang, cette région-là. Et probablement, et dans les messages, parce qu'il y a des messages très importants du Christ, quand il parle de son Église, parce que quand il l'a bâtie, elle était une. Et quand elle a grandi, elle s'est divisée.
Séparée.
Elle s'est divisée à péché. Donc, si vous voulez, c'était pour l'unité des Églises. Et ce n'est pas pour rien qu'il a choisi une femme qui était mariée à un orthodoxe.
Oui.
Sous-entendu, catholique, orthodoxe, protestant et autres, je ne dirais pas sectes, mais autres croyances,
oui.
comme la religion musulmane, comme la religion juive,
oui.
Je pense. Dans le plan de Dieu, il veut l'unité. Et en même temps, il veut l'unité de la famille. Parce que j'ai eu, et ça va vous faire sourire, j'ai eu contact avec des religieuses qui étaient au mémorial Saint-Paul. Des braves femmes syriennes, libanaises et françaises et canadiennes. Donc, ils se consacrent corps et âme pour les pauvres et pour les malades. Et elles ne comprenaient pas que la Sainte Vierge, quand j'ai eu un contact, je vous le rapporte, et c'est humain, hein,
oui.
C'est pas fait. Elles comprenaient qu'ils aient choisi Myrna parce qu'elle n'avait jamais fait l'effort d'aller au début, mais quand je l'ai revue un peu plus tard, elles sont parties.
Ah oui.
Parce que leur directeur, leur directeur, je veux dire spirituel, qui est un père franciscain, leur dit en dehors de l'évangile, vous n'avez pas besoin. Néanmoins, moi, je leur ai répondu, s'il a choisi Myrna, c'est probablement parce qu'elle était jeune femme mariée.
Oui.
Et que chacun a une mission spéciale.
Oui.
Voilà.
Et alors, que s'est-il passé en 2025?
Alors, que je vous dise combien de temps il nous reste.
Il nous reste 5 minutes.
5 minutes, ça va être rapide. Juste quand même que je vous dise Myrna, après les années 95, et que le Vatican, après la visite du nonce apostolique qui est venu la voir spécialement, et les mains ont coulé devant le nonce apostolique.
Oui.
Du coup, elle a eu le privilège de rencontrer Jean-Paul II,
oui.
Et plus tard le pape François. Oui. Pour moi, ce n'est pas ça qui corrobore, hein. Ce n'est pas la dimension du Vatican, puisque les premiers jours, les 40 premiers jours, chrétiens et musulmans étaient à genoux devant cette icône, sans savoir si Vatican ou si les services de renseignement ont éliminé toute trace de corruption ou de supercherie ou de paranormal ou d'œuvre du diable. Bref, en 2022, tenez-vous bien, il y a des clarisses cloîtrées d'Italie qui demandent l'autorisation de Vatican pour venir, et je crois que c'est important que vos auditeurs le sachent, elles sont venues spécialement à Damas en 2022. Pourquoi? C'est le 40e anniversaire du premier message à écoulement. Et à 23h30, elles étaient près de l'arbre à aller prier et chanter. Et Myrna m'a confié il y a 2 jours qu'elle a été obligée d'aller en chemise de nuit pour leur dire vraiment pour le soir à 22h, à 23h30, il fallait quand même pas trop exhiber leur souhait d'anniversaire.
Oui, alors 2025, Jean-Claude, parce qu'il nous reste 2 minutes.
Il se trouve pendant 10 ans, il s'est rien passé, à part quand elle se déplaçait parfois. Et pour la première fois, en 2000, donc 2025,
cette année,
exactement en avril, le samedi saint. Alors,
2 minutes, Jean-Claude.
Un point très important. Le premier, c'est que Myrna a commencé à avoir un malaise, comme si ça précédait l'extase. Et parallèlement, elle ne le savait pas, elle ne la connaissait pas. Et il y a une jeune musulmane qui m'a autorisé à dire son nom et son prénom. Elle est de Dera, elle est sunnite, c'est une jeune femme dont le papa était emprisonné sous l'ancien régime, malheureusement. Elle avait fait le vœu, parce qu'elle avait eu écho de Soufania. Dera, c'est là où a eu lieu la première insurrection syrienne, hein. C'est à 1 heure de Damas. Malheureusement, c'est comme ça. Et donc, elle souhaitait avoir ses nouvelles. Elle s'est dit, le jour où elle aurait ses nouvelles, elle irait rendre grâce. Or, quand elle a appris qu'elle ne pourrait pas avoir de nouvelles, donc sous-entendu qu'elle ne saurait jamais s'il est mort et où, donc elle a fait la démarche d'aller le jeudi saint, le samedi saint, donc c'était le 29 avril. Elle arrive et spontanément, elle allume une bougie c'est un vœu qu'elle voulait faire pour le repos de son âme. Et au moment où elle allume la bougie, l'icône qui n'avait pas coulé depuis 10 ans, elle se remet à couler. Elle a les larmes aux yeux. Évidemment, elle fait partager ça à Myrna.
Yes.
Et c'est comme ça qu'elle lui a dit, j'autorise votre ami, sous-entendu moi, qui peut parler de ce qui m'est arrivé. Et à un moment donné, elle avoue, elle dit, j'avais honte et je me sentais égoïste de prier que pour le repos de l'âme de mon papa, mais il y a eu d'autres camarades avec lui qui sont morts et qui peut-être seraient dans l'anonymat. Donc, Myrna, voilà ce qui s'est passé, je vous dis, il y a quelques jours, ce témoignage, je vous l'offre en exclusivité.
Merci. Parce que,
en général, les musulmans ou les musulmanes, par prudence, n'aiment pas trop crier alors qu'ils n'ont pas honte de leur foi. Alors, si vous voulez, je peux vous donner les
questions. Alors, on n'a pas le temps, parce que l'émission se termine. Malheureusement déjà, alors chers auditeurs, je voudrais déjà vous inviter à lire ce livre « Itinéraire de Myrna Nazour en France aux éditions du Parvis », voilà, que vous pouvez voir sur l'image, écrit par Jean-Claude et son épouse Geneviève Antacli. Alors nous, avec Jean-Claude, nous aimerions beaucoup inviter Myrna en France. C'est quelque chose qui nous tiendrait à cœur. Tout cela s'organise, ça ne pourrait s'organiser qu'avec vous, chers auditeurs, parce que vous imaginez bien que cela engendre des frais. Et si vous êtes prêts à nous aider, je vous propose de m'envoyer un mail pour me dire, écoutez, moi je suis prêt à vous donner tant. Et puis une fois une cagnotte, potentielle établie, nous pourrons commencer à réfléchir à la chose. Donc écrivez-moi à magnificat@mariedenazareth.com magnificat@mariedenazareth.com et nous verrons comment nous pourrons essayer de réaliser ce projet. Alors la semaine prochaine, Jean-Claude, nous allons nous retrouver pour parler du Moyen-Orient et de la situation actuelle, quand même par le prisme des chrétiens d'Orient.
10 secondes, Franck.
Allez-y.
10 secondes. Juste 10 secondes pour dire à vos auditeurs par rapport au dernier message qui pourront le découvrir dans 1000 raisons de croire quand il y aura le reportage qui complète l'audition que nous avons eue ensemble.
Très bien. Merci beaucoup, Jean-Claude. Et puis alors, à la semaine prochaine.